Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec dans un tout petit instant l'info. Ce sera le journal de Christophe Lamarre. Et puis juste après, on ouvrira ensemble le débat du Club des idées d'Europe 1. Et on se demandera pourquoi tant d'affaires criminelles restent sans réponse, sans coupable. Vous savez, ces fameux cold cases qui font le bonheur des scénaristes, mais qui font surtout vivre des nuits blanches aux enquêteurs et qui empêchent aussi les familles de faire leur deuil. Eh bien, un rapport vient d'être remis à la chancellerie. Il appelle à créer une véritable culture du cold case en France pour améliorer justement le traitement de ces affaires non résolues. On en parlera avec mes invités à partir de 19h20. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour avec ce soir Éric-Emmanuel Schmitt qui s'en prendra à ceux qui cherchent à tout prix des coupables dans cette crise sanitaire. Mais d'abord le point sur l'info avec vous Christophe Lamarre. Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
Des activités, des choses qu'il puisse faire tout seul quand je suis moi en télétravail et en visio. De la lecture, un peu de télé, un peu de console.
Un parfum de vacances flotte dans l'air, mais ce n'est qu'un parfum. Les écoles ferment ce soir partout en France. Drôle d'ambiance à la sortie des classes, comme l'a constaté notre correspondant à Toulouse.
Ni vacances, ni week-end de Pâques pour la campagne de vaccination. Et au hit parade des doses, la Corse est loin devant. 17% des habitants de l'île ont reçu au moins une injection. C'est 12% pour le reste de la population.
Ça ne rend pas plus libre pour autant. Être vacciné contre le Covid ne permet pas de s'affranchir des restrictions. Le Conseil d'État estime que la vaccination n'élimine pas complètement le risque de contamination.
Rebondissement dans la mort de Myriam Sacri. Cette gendarme s'était suicidée dans sa caserne. La justice rouvre le dossier et fait droit à sa famille qui n'a jamais cru à la thèse du suicide pour des raisons personnelles.
On a appelé ça le MeToo du sport. Premier bilan, un an après la mise en place de la plateforme d'écoute sur les violences sexuelles dans le sport. Elle a reçu un peu plus de 400 signalements.
La météo, Anissa Haddadi, hormis quelques nuages au nord, le temps demain restera lumineux.
Oui, c'est dans le nord-ouest précisément que le ciel va se couvrir demain. Quelques nuages bas également du côté de l'Aquitaine et de la région toulousaine. Au bord de la Méditerranée, le temps est instable sur la Côte d'Azur et la Corse. Ailleurs, il va faire beau. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'école est finie, enfin pas tout à fait parce que la semaine on fera cours à distance, mais il n'empêche, les établissements ont fermé leurs portes ce soir partout en France. Les parents étaient là bien sûr pour récupérer les enfants, mais dans un coin de leur tête, il y avait aussi un peu d'appréhension. Certains craignent en effet de revivre le scénario du premier confinement, Benjamin Péter.
Oui, à la sortie des classes tout à l'heure, on voyait des parents s'encourager. Allez, ce n'est que 3 jours et demi de classe à la maison finalement. Mais Isabelle appréhende le retour des devoirs à la maison pour son fils de CE2 pendant qu'elle télétravaille.
L'an dernier, ça a été du sport, donc je pense que cette année aussi. En plus, du coup, le télétravail est quand même mieux organisé, donc j'ai plus de visio. On a prévu des activités, des choses qu'il puisse faire tout seul quand je suis moi en télétravail et en visio. De la lecture, un peu de télé, un peu de console, et puis aussi la solidarité entre parents d'élèves quand même.
Elle est infirmière, il a fallu s'organiser très vite et pour elle, tout n'est pas encore calé.
On avait prévu la semaine de vacances qui est décalée, on avait prévu des gardes sur des jours où ils étaient à l'école, les gardes de nuit où il faut dormir la journée avec les enfants à la maison. Surtout le délai d'organisation de 48 heures est un peu fou.
Pour Ambre qui ne travaille pas, ce sera beaucoup plus facile forcément. Pour elle, la fermeture des classes à répétition, ça ne pouvait plus durer.
De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Quoi. Ceux qui sont au collège, ils sont qu'à contact tous les 3 jours, donc il y a un moment, c'est plus possible. Quoi. Et lui aussi. Il a été qu'à contact.
Mais maintenant, ce que ses parents espèrent, c'est que cette fermeture des écoles aura un effet sur l'épidémie et que le calendrier présenté par le président de la République sera respecté.
Le reportage de Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse. En tout cas, week-end de Pâques ou pas, la campagne de vaccination, elle, va continuer d'accélérer.
Matin, midi et soir, week-end compris, a dit Emmanuel Macron. 8,5 millions de Français ont reçu une première dose. Ils sont un peu moins de 3 millions à avoir bénéficié de la deuxième injection. Mais il y a évidemment des disparités en fonction des régions et au hit parade des bons élèves. Eh bien, la Corse est devant tout le monde, Victor Dolande.
Oui, l'île de beauté est pour le moment la championne de la vaccination en France avec 17,3% de personnes vaccinées contre un peu moins de 12% dans le reste de la population française. En Corse, il n'y a presque aucune perte. 95% du stock de doses est consommé chaque semaine. Deux explications principales à ces bons résultats. Une bonne solidarité des acteurs de santé et surtout une bonne coordination des élus locaux qui ont mis à disposition très rapidement des listes de personnes éligibles pour la vaccination. La Corse devance donc la Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se hissent sur le podium avec plus de 14% de vaccinés dans ces deux régions. En revanche, dans le bas du classement, on retrouve les Pays de la Loire, le Centre-Val-de-Loire et l'Île-de-France qui sont en dessous de la moyenne nationale. Il faudra voir dans les prochaines semaines si les super centres de vaccination vont aider ces régions à la traîne. La plupart ouvrent la semaine prochaine et le plus grand des vaccinodromes, le Stade de France, ouvrira lui mardi prochain.
Merci beaucoup pour ces précisions, Victor Dolande. Et à propos de vaccination, attention, hein, ça n'est pas parce que l'on a reçu les deux doses que l'on peut faire n'importe quoi. Le Conseil d'État vient de le rappeler. Hein.
Être vacciné contre le Covid ne dispense pas de respecter le confinement et le couvre-feu. Le Conseil d'État estime en effet que la vaccination n'élimine pas complètement le risque de contamination. Un principe que comprend très bien Christine Rouzioux, professeure de virologie et membre de l'Académie de médecine.
Nous n'avons pas assez de recul du tout pour autoriser une liberté totale aux gens vaccinés, même avec deux doses. Là, il reste encore un risque d'acquisition du virus. Et puis, comment faire pour distinguer les vaccinés des non-vaccinés? Ça peut induire des dérives. Les jeunes sont suffisamment, je dirais, maltraités en ce moment avec l'absence de pouvoir se réunir. Je crois que vraiment, si en plus... il n'y a que les vieux qui auraient le droit de se déplacer, ce ne serait pas terrible. Et surtout, la population vaccinée n'est vraiment pas très importante, donc elle doit faire attention vis-à-vis de celle qui n'est pas vaccinée. On espère bien que fin août, on aura un maximum de la population vaccinée, y compris chez les jeunes. Et à ce moment, on n'aurait même plus besoin d'avoir des restrictions entre les vaccinés et les non-vaccinés, puisque les non-vaccinés seraient juste les enfants.
Voilà, Christine Rouzioux, professeure de virologie et membre de l'Académie de médecine. Elle était avec Romane Hoquet. On rappelle également que le gouvernement, s'il autorise les déplacements exceptionnellement pour ce week-end de Pâques, interdit en revanche les rassemblements de plus de 6 personnes. À Lyon d'ailleurs, le préfet vient d'annoncer cet après-midi la fermeture des quais de Saône.
À Pontoise, 3 hommes sont en garde à vue après une rixe mortelle. Le vol d'une moto a provoqué une expédition punitive et meurtrière qui a opposé des gens de la communauté du voyage et à des jeunes de la cité de Marcouville. 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées.
Dans l'actualité également, la justice qui rouvre le dossier de la mort d'une gendarme. Et c'est un soulagement pour sa famille qui n'a jamais cru à l'hypothèse du suicide pour raison personnelle.
Myriam Sacri s'est donné la mort dans son appartement de fonction en septembre 2011. La jeune femme âgée de 32 ans se plaignait d'être harcelée par ses collègues. Sa famille avait porté plainte, mais l'enquête avait conclu à un non-lieu confirmé par la cour d'appel et de cassation. Mais cette fois, la cour d'appel de Lyon décide de rouvrir le dossier pour homicide involontaire et harcèlement moral. Une décision logique pour sa sœur Anissa.
C'est grâce à des gendarmes qu'on a cette réouverture. Parce qu'il y a certains gendarmes qui sont venus de manière spontanée pour nous dire « Oui, effectivement, Myriam a été harcelée. Oui, effectivement, elle était dans le collimateur. Oui, effectivement, on voulait qu'elle quitte la gendarmerie. » On espère que maintenant ces gendarmes puissent être interrogés de manière libre et sans crainte surtout. On veut une véritable enquête et qui soit faite indépendamment de la gendarmerie. Notre sœur est avec nous tout le temps. C'est elle qui nous donne ce courage et parce que ma sœur était quelqu'un de tellement engagé dans la vie citoyenne française qu'on se doit d'être à la hauteur. Mais on essaie tout doucement et on est là, on est là et on sera là jusqu'au bout en fait.
Le témoignage d'Anissa, la sœur de Myriam Sacri, elle répondait à Marion Dubreuil.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et un an après, premier bilan de la plateforme de lutte contre les violences sexuelles dans le sport.
Et puis Sheila sort un nouvel album, rien que des inédits.
19h08, suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1 et vous vous en souvenez peut-être, son témoignage avait déclenché la libération de la parole dans le milieu sportif. Un an après, le ministère des Sports fait un premier état des lieux.
Oui, l'ancienne patineuse Sarah Abitbol avait ouvertement accusé son ancien entraîneur de viol et d'agression sexuelle. Cela avait déclenché une soudaine prise de conscience. Le ministère des Sports a depuis lancé une convention nationale et mis en place une plateforme d'écoute. Un an après, eh bien, l'heure est à un premier bilan, Corinne Boulou.
Alors oui, ce matin, pas moins de 5 ministres et secrétaires d'État étaient réunis au Conseil économique et social à Paris pour faire le point. C'est dire la mobilisation incarnée par la ministre Roxana Maracineanu qui en a fait son cheval de bataille depuis un an. Alors oui, la parole se libère, le nombre de signalements augmente, même s'il reste encore beaucoup à faire.
Dénoncer les violences dans le sport, ce n'est pas dénigrer le sport ou dévaloriser ses acteurs. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais nous pouvons maintenant nous regarder en face.
En juillet dernier, lors d'un premier point d'étape, 177 personnes étaient mises en cause dans des affaires. Aujourd'hui, 421 personnes sont mises en cause et 191 interdictions d'exercer ont déjà été prononcées. Fabienne Bourdet, responsable de la cellule de traitement des dossiers au ministère, a précisé ce matin quel était le profil des mises en cause et des victimes.
Plus de 70% des personnes mises en cause sont aujourd'hui des éducateurs sportifs. 48 fédérations sportives sont aujourd'hui concernées par au moins un signalement. Nous étions à 40 au 1er juillet et 83% des victimes sont de sexe féminin. Plus de 80% des victimes étaient mineures au moment des faits.
Et plus de la moitié avaient moins de 15 ans. La prévention, il en a été question aussi ce matin, notamment par le biais du certificat d'honorabilité qui va concerner 2 millions de bénévoles.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. En rugby, match perdu sur tapis vert pour Toulon qui a déclaré un cas de Covid juste avant de disputer son 8e de finale de Coupe d'Europe contre le Leinster.
Et on apprend à l'instant, Christophe, que le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, est positif au Covid-19. Il sera donc forfait pour le quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, match qui doit se jouer mercredi prochain. Et puis elle revient avec un nouvel album, Sheila. Sheila publie Venue d'ailleurs.
Et dans cet album, il y a des chansons originales. Cela fait 9 ans que ce n'était pas arrivé. Sheila jette un coup d'œil dans le rétroviseur et regarde ses 60 ans de carrière, de ses années yéyé, à sa collaboration avec le groupe Chic d'un certain Nile Rodgers, qui lui offrira d'ailleurs le tube international Spacer, un album intime, Angèle Châtelier.
Cet album, c'est l'histoire d'une gamine qui a démarré à 16 ans et j'avais envie de partager ça avec les gens, avec mes sensations d'aujourd'hui.
Ce 27e album de Sheila est comme une autobiographie. Elle se remémore ses années yéyé, par exemple.
On était tous yéyé.
Ou bien les drames de sa vie. La mort de son fils Ludovic, il y a 4 ans.
La nuit souvent, j'entends la course d'un cheval qui porte ton nom.
Ou encore la rumeur qui l'a poursuivie pendant des années. Au début des années 60, un magazine à scandale avait répandu l'idée qu'elle était un homme.
Mal est fait, il est maudit.
J'ai fait cette chanson parce que c'est mon histoire et c'est une partie importante d'un traumatisme très important dans ma vie. Mais je l'ai fait aussi parce qu'on vit dans l'ère des rumeurs là maintenant. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et moi, ce que j'avais envie, c'est quand même d'expliquer que d'un truc qui peut être une blague, ça peut rendre fou.
Cette blessure ne l'aura pas empêché de vendre plus de 85 millions d'albums dans le monde, dont King of the World, produit par l'immense guitariste Nile Rodgers, son ami, son âme sœur, dit-elle. Il était donc impossible de faire un album aussi personnel sans qu'il ne lui signe une chanson.
La patte de Nile Rodgers, inimitable et reconnaissable entre mille.
Chez là,
Angèle Châtelier.
Dans le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, on vous souhaite un très bon week-end. Anissa Haddad, vous nous confirmez que ça y est, le froid gagne définitivement du terrain demain.
Oui, aujourd'hui les températures avaient bien baissé au nord de la Seine. Demain, plus de régions seront concernées par ce froid qui arrive, avec seulement 1 à 5 degrés au nord de la Seine, 6 à 11 degrés partout ailleurs. Nous aurons 12 degrés à Lille demain après-midi, 15 à Paris, 17 à Nice et Aurillac, ça baisse aussi dans le sud, 18 degrés à Lyon, 19 à Bordeaux et 24 tout de même, c'est la maximale pour Montpellier. C'est un coup de froid comme celui que nous connaissons de temps en temps, que nous avons connu fin février. C'est un coup de froid polaire qu'on appelle,
très froid, donc
très froid, ouais. D'un coup, eh bien, il n'est pas rare ce coup de froid début avril. Il n'est pas anormal d'ailleurs qu'il neige jusqu'au 10 avril en pleine. En tout cas, en météo, on ne trouve pas ça anormal. Après, on verra si ça se poursuit après le 10 avril. Effectivement, nous avons un épisode neigeux qui est prévu pour la nuit de lundi à mardi, qui pourrait se poursuivre jusqu'à mercredi pour les régions situées particulièrement au nord, comme les Hauts-de-France, la Normandie et l'Île-de-France. On va surveiller ça de près. Et vous allez voir que la semaine prochaine, les températures vont continuer à baisser puisque nous aurons 20 degrés d'écart entre la journée d'hier et le milieu de semaine prochaine.
C'est énorme, 20 degrés. Hein, ouais.
C'est énorme. En fait, ce qui est plus exceptionnel, c'est le coup de chaud que nous avons eu la semaine dernière plutôt que le froid que nous avons là. Alors demain, la bise va souffler sur toute la moitié nord du pays, le littoral atlantique, les côtes de la Manche. Le Mistral et la Tramontane se lèvent là aussi. Ça va souffler jusqu'à 80 km/h. Du côté de la Côte d'Azur et de la Corse, nous aurons des orages qui vont se déclencher. Ailleurs, nous avons quand même la présence d'un beau soleil qui va illuminer le ciel de nombreuses régions.
En tout cas, lundi, je ne vous verrai pas avec cette jolie petite robe, mais avec un col roulé. Merci
certainement.
Beaucoup.
Certainement.
À lundi. Merci Anissa.
À lundi.
Dans un instant, la France veut rattraper son retard dans la résolution des cold cases, les affaires criminelles non élucidées. Ce sera le thème de notre grand débat. Mais d'abord, la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel.
Bonsoir Isabelle.
Alors, votre coup de griffe s'adresse ce soir à ceux qui, durant cette crise du Covid, pointent des coupables.
C'est la faute à machin.
Vous vous souvenez, Isabelle, de cette expression qui accompagnait les jeux dans la cour de l'école primaire ? Elle comportait parfois une précision. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à machin. Et le doigt de l'enfant indiquait un coupable. Eh bien, je suis pris de vertige en ce moment, car j'ai l'impression de me retrouver au centre d'une farce étrange. Je suis entouré d'adultes qui, malgré leur costume sérieux d'enfants déguisés, crient en permanence « c'est la faute à machin ».
C'est-à-dire, donnez-nous des exemples.
Eh bien, des jeunes gens sortent sur les quais de Lyon, ma belle ville natale, pour danser et boire des pots au mépris des mesures sanitaires. Gênant, mais compréhensible. Or, voilà que des politiciens viennent nous expliquer aux informations que c'est dû à la mauvaise communication du gouvernement. Certes, la communication gouvernementale a été parfois erratique. Elle a menti sur les masques, elle a émis des promesses hâtives quant au vaccin, elle a produit des circulaires idiotes pour nos déplacements. Mais que des Français, au bout d'un an, n'aient pas saisi qu'un virus très dangereux circulait, qu'on ne s'en protégeait qu'avec des masques, de la distance, du gel et moins de contacts, cela me semble impossible. Malgré les cafouillages, l'information est passée. Personne n'est crétin à ce point. D'ailleurs, ces briseurs de règles sanitaires à Lyon se contentent d'avouer leur lassitude. Ils n'accusent pas. Alors, de grands esprits le font pour eux. C'est la faute au gouvernement. Si des gens se comportent de façon égoïste et irresponsable, c'est la faute au gouvernement.
Et comment l'expliquez-vous ?
Comment j'explique leur explication ? D'abord, ils habillent leur ambition politique et suggèrent, en critiquant, qu'ils auraient fait mieux.
Ce qui est possible, d'ailleurs.
Ce qui est possible, mais pour l'heure, totalement irréel. Mais surtout, ils recourent à une solution simple devant un problème complexe. Ils désignent un coupable. En gros, ils appliquent la tactique du bouc émissaire. Et là, je m'inquiète vraiment.
Pourquoi ?
Penser, ce n'est pas désigner. Penser, ce n'est pas accrocher toutes les causes à un seul fautif. Penser, ce n'est pas simplifier.
Pourtant, la recherche de la simplicité appartient à la démarche intellectuelle.
Tout à fait. Mais il ne faut pas confondre la simplicité et le simplisme. La simplicité résulte de la résolution des difficultés, tandis que le simplisme vient de l'ignorance des difficultés.
Donc, si je vous suis bien, ceux qui désignent un coupable sont, selon vous, des simplificateurs.
Oui, nous sommes confrontés à des vendeurs d'idées simples, depuis le démagogue jusqu'à l'intégriste. Il est aisé de reconnaître les simplificateurs. Sous leur discours, même sous le plus sophistiqué, vous entendez toujours ce refrain « c'est la faute à machin ». Selon les époques, machin, c'est le juif, machin, c'est le musulman, machin, c'est l'immigré, machin, c'est le riche, machin, c'est l'allemand, machin, c'est le franc-maçon, etc. Actuellement, machin, c'est Macron.
Il est quand même responsable, sinon coupable.
Ah, il est responsable de ses décisions, en effet, des mauvaises comme des bonnes. Sa tâche est difficile, mais n'annulons pas cette difficulté et n'attribuons pas tous les maux à un élu. La pandémie, le combat contre la pandémie, sa lenteur, les comportements irresponsables et égoïstes de certains, l'usure que nous éprouvons durant cette situation pesante. Ce n'est pas moi, c'est machin. Faux. Nous luttons tous contre la pandémie. Nous devons tous hâter par une conduite adaptée le retour à une vie normale. Alors, cessons de simplifier et de désigner. Pensons plutôt. Penser, c'est analyser la multiplicité des causes et des paramètres, les peser, les confronter. Rien n'est plus grave pour une société que le refus de penser. D'autant que cette paresse haineuse se fait passer pour de la pensée et entraîne les autres à ne plus penser. Je voulais donc ce soir souligner un risque dont les épidémiologistes ne nous parlent pas, la contagion de la non-pensée. Elle est aussi importante que celle du virus.
Eh bien, moi, je dis bravo. Merci beaucoup, Éric-Emmanuel Schmitt, pour cette mise au point nécessaire, me semble-t-il. Merci, à très bientôt.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant sur Europe 1, on va vous parler des cold cases. Trop d'affaires criminelles restent sans réponse. Lourdeur administrative, manque de communication, de coordination au sein de l'institution judiciaire. Ça commence à bouger. Il était temps, nous diront mes invités. À tout de suite. Si vous êtes adepte des séries télé, vous aurez sûrement reconnu le générique de Cold Case, cette série dans laquelle des inspecteurs élucident des crimes des années après les faits. Dans votre club des idées, ce soir sur Europe 1, on va s'intéresser à ce sujet passionnant et mystérieux. Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien parce qu'un groupe de travail vient de remettre à la chancellerie un rapport avec des propositions afin d'améliorer le traitement judiciaire des affaires non résolues. Avec moi pour en parler ce soir, des spécialistes. Jacques Dallest, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, qui a présidé ce groupe de travail, qui est à l'origine de ce rapport, dont il est aussi à l'initiative. Le criminaliste Roger-Marc Moreau, l'avocat pénaliste Cathy Richard et Philippe Guichard, directeur adjoint de la lutte contre le crime organisé et ancien chef de l'OCRVP. C'est l'office central qui s'occupe notamment de tous les cold cases pour la police judiciaire. Vous avez également, Philippe Guichard, participé à l'élaboration de ces propositions. D'abord, je voudrais que vous m'expliquiez, que vous me disiez, est-ce qu'on a une idée du nombre d'affaires criminelles non résolues aujourd'hui en France, Philippe Guichard ?
Alors, on n'a pas une vraie idée du nombre d'affaires criminelles non résolues actuellement en France. Déjà, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend par cold case ? C'est oui. Une notion un peu compliquée, qui n'est pas juridiquement définie. On dit en général qu'il s'agit de dossiers criminels graves, de sexe ou de sang, non élucidés, qui commencent à dater, qui sont un peu en souffrance dans les services, finalement, sur lesquels il n'y a plus d'axe d'enquête, véritablement, et dont on sent bien qu'il est temps de relancer un petit peu les investigations.
Mais quand vous dites qu'on n'a pas vraiment une idée du nombre d'affaires, ça se traduit combien ? En dizaines, en centaines, en milliers ?
Écoutez, on a fait un recensement, il n'y a pas longtemps, des dossiers d'homicides non solutionnés toujours en portefeuille dans les services de police judiciaire. Il y en a environ 150 sur tout le territoire national, sans compter la préfecture de police de Paris et les dossiers qui seraient gardés entre les mains de la sécurité publique. Je ne parle pas des dossiers traités par la gendarmerie nationale,
mais c'est encore autre chose, d'accord.
Ceux qui sont traités par la police judiciaire. 150 dossiers d'homicide, c'est pas mal, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut aussi considérer comme étant un cold case un dossier de sexe. Par exemple, un viol aggravé ou une série de viols aggravés, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre des affaires qu'on cible comme étant des cold cases. Et puis, il y a les affaires de disparition.
Oui, j'allais y venir.
Qui sont vraiment compliquées à dénombrer, parce que c'est jamais très simple de savoir si oui ou non une disparition est inquiétante, très inquiétante, si finalement c'est un homicide sans corps découvert.
Oui, est-ce que vous nous dites qu'en gros, le cold case, ça n'est pas uniquement quand il y a un cadavre, hein ? Alors, des experts, des policiers, des gendarmes, des avocats spécialisés réunis dans un groupe de travail ont donc remis ces derniers jours un rapport au ministre de la Justice avec des propositions pour améliorer le traitement judiciaire de toutes ces affaires non résolues. Vous êtes à l'origine de ce groupe de travail, Jacques Dallest. Avant de nous dire ce que vous préconisez, expliquez-nous pourquoi ce rapport ? Parce qu'aujourd'hui en France, il y a vraiment des lacunes dans le traitement de ces affaires judiciaires ?
Oui, bah écoutez, je pense que ce sont des affaires, comme l'a dit Philippe Guichard, très complexes. Malgré toute l'énergie que les enquêteurs, les magistrats y mettent, elles ne sont pas forcément simples à élucider. Et je crois qu'on peut progresser, et c'est un peu le résultat de notre groupe de travail, on peut progresser dans le traitement judiciaire de ces affaires difficiles. Bien sûr.
Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, il n'existe pas réellement de centralisation des dossiers, des données, Philippe Guichard ?
Alors non, il n'existe pas de centralisation des données, mais il existe au sein de la police judiciaire un office, l'Office central pour la répression des violences contre les personnes, l'OCRVP, qui a pour mission normalement, il suffit de lire son décret portant création de 2006, de coordonner, de centraliser les informations relatives aux affaires d'atteinte grave contre les personnes. Cet office a aussi en charge un certain nombre de dossiers, de cold case notamment, seuls ou en co-saisine avec des services territoriaux. En ce moment, ils en ont à peu près une trentaine en portefeuille. Et donc, ils investiguent en collaboration avec des services territoriaux sur les dossiers pendant, en souffrance un petit peu, dans les services de province.
Roger-Marc Moreau, je rappelle que vous êtes criminaliste et enquêteur privé. Vous êtes donc sur le terrain régulièrement. C'est quelque chose que vous constatez ? Les juges, ils ne se parlent pas entre eux, les enquêteurs non plus ? Il n'y a pas beaucoup d'échanges ?
Oui, non, il y a un manque d'échanges, c'est certain. Et puis, on parlait des disparitions. Les disparitions ne sont pas réellement recensées. Il y a les enterrés sous X. On ne sait pas s'il s'agit de crimes ou non. Et puis, il y a également des problèmes par rapport à même aux résolutions des affaires. Quand on parle d'un cold case, oui. Récemment, j'ai traité une affaire, c'était, on a prétendu être un cold case résolu, parce qu'on avait trouvé un ADN sur la main de la jeune fille qui avait été assassinée. Et tout de suite, on a mis en détention un homme qui était le détenteur de cet ADN. Et avec Maître Cormier, l'avocat de Lyon, nous avons réussi à démontrer qu'il y avait peut-être un doute, qu'il peut y avoir des problèmes de transfert d'ADN, et par conséquent, il n'y avait pas de preuve. Donc, il a été pour l'instant mis en liberté.
Ouais. On va revenir sur cette affaire d'ADN, parce que c'est passionnant aussi. J'imagine, Maître Cathy Richard, vous êtes avocat, que c'est quelque chose que vous déplorez en tant qu'avocate, ce manque de communication, parce que c'est terrible aussi pour les familles qui attendent des réponses, qui n'imaginent pas finalement les blocages qu'il peut y avoir derrière toutes ces enquêtes.
Oui, exactement. Déjà, on rêve d'une coopération efficace depuis des années. Comme aux États-Unis, il avait été question du VICAP, en France, du SALVAC, et on se rend compte encore.
C'est quoi ? Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire des fichiers de mise en commun avec un certain nombre de points. C'est-à-dire que chaque enquêteur doit répondre à un certain nombre de points lorsqu'il a une scène de crime ou un mode opératoire d'un violeur en série. Et puis, c'est distribué à tous les services pour être mis en commun, pour qu'on puisse faire éventuellement le rapprochement entre les uns et les autres. On sait qu'aux États-Unis, pendant longtemps, justement, les tueurs en série ou les violeurs en série passaient d'un État à l'autre en se disant et les États-Unis n'étaient pas habitués à ça. Et puis en France, on s'est rendu compte, on commence à se rendre compte qu'ils font pareil en Europe. Moi, ouais. je suis dans un dossier là où on vient de faire venir Martin Ney d'Allemagne. Avant ça, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il avait un mode opératoire qui faisait qu'il intervenait dans les colonies de vacances auprès de jeunes garçons. Et effectivement, il coche toutes les cases de l'affaire du petit Jonathan en France.
Ouais, vous savez quoi, on va poursuivre le débat parce que c'est passionnant. Malheureusement, on doit partir en pub. On va se retrouver dans un tout petit instant. Vous allez nous dire notamment ce que vous proposez pour améliorer le traitement judiciaire de ces affaires non résolues. À tout de suite. 19h31, c'est la suite de notre débat du Club des idées sur Europe 1, consacré ce soir à ces affaires criminelles non élucidées, parfois très anciennes, qui se trouvent dans une impasse, des dossiers qui souvent tombent dans l'oubli au grand désespoir des familles. Et on en parle ce soir parce qu'un rapport d'experts vient d'être rendu au ministère de la Justice, un rapport qui propose des pistes pour une meilleure centralisation, une meilleure communication, un meilleur partage des informations afin que ces dossiers ne restent pas sur des étagères. À mes côtés ce soir, Jacques Dallest, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, qui a présidé ce groupe de travail. Philippe Guichard, directeur adjoint de la lutte contre le crime organisé et ancien chef de l'office central qui s'occupe, je résume, mais c'est plus simple, notamment de tous ces cold cases pour la police judiciaire. Également autour de cette table, le criminaliste Roger Marc Moreau et l'avocat pénaliste Cathy Richard. Nous avons une justice qui fonctionne encore avec les méthodes du 19e siècle. C'est ce que dit l'un des avocats qui a participé à la rédaction de ce rapport. Nous n'avons pas une culture du travail collectif et c'est d'ailleurs ce que vous nous confirmiez tout à l'heure. Alors, que faut-il faire ? Que proposez-vous, Jacques Dallest ?
Alors, bon, je ne dirais pas que la justice fonctionne comme au 19e siècle. On a quand même un petit peu évolué. Il ne faut pas oublier que les juridictions en France, comme dans la plupart des pays, sont territorialisées. Donc, on a des compétences limitées, alors que le malfaiteur, lui, peut se déplacer partout, ce qui est une des contraintes auxquelles on est confronté. Alors, les préconisations, après cette année de travail avec les collègues les membres du groupe de travail, c'est de faire en sorte qu'on traite mieux dans l'appareil judiciaire, ces affaires complexes. Comme l'a dit Philippe Guichard, il y a des crimes non élucidés qui sont en cours, d'autres qui sont carrément clôturés. Il y a les affaires de disparition inquiétantes. Nous avons formulé 26 recommandations, certaines assez ambitieuses, d'autres beaucoup plus pratiques, dont certaines nous semblent pouvoir faire progresser très largement le traitement de ces affaires. Et je peux y revenir si vous le souhaitez.
Eh bien oui, nous le souhaitons évidemment. Alors par exemple, dites-nous, il faudrait un pôle de juges spécialisés comme c'est le cas en matière de terrorisme ou de santé publique ?
Il y a trois recommandations qui me semblent majeures. Celle de créer des pôles spécialisés interrégionaux, 8, 10, on ne sait pas encore, qui, avec des magistrats spécialisés, dédiés du parquet et de l'instruction, qui auraient pour charge de traiter ces affaires contre X. il n'aurait que ces dossiers à traiter, ce qui n'est pas le cas actuellement dans les tribunaux où les magistrats sont pris par la délinquance ordinaire, avec notamment des détenus, donc des urgences. Donc des pôles spécialisés avec des connaissances, une formation et la capacité de se mettre en réseau. Ça, c'est une des premières recommandations, je pense, majeures pour progresser. Une autre, c'est que dans tous les parquets où se tiennent des pôles criminels, dans la plupart des départements, il y a une mémoire criminelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois qu'un dossier est clôturé, il soit bien numérisé et qu'on puisse accéder très facilement au stock d'affaires qui sont encore en cours ou qui pourraient être retravaillées.
Mais ça n'existe pas.
Ça paraît très vite.
Ça paraît assez fou que ça n'existe pas aujourd'hui quand même.
Ça n'existe pas. Où c'est très empirique, parce que les affaires se succèdent, parce que les affaires contre X laissent la place à des affaires où des personnes sont interpellées. Et c'est tout le problème de garder cette continuité dans la connaissance et de faire en sorte qu'on retrouve très vite à la fois les dossiers, mais aussi les scellés, les pièces à conviction, qu'on ne les détruise pas, qu'on ne les perde pas, puisqu'elles permettront peut-être de travailler sur une preuve scientifique.
Alors justement, Philippe Guichard, expliquez-nous à partir de quel moment est-ce qu'aujourd'hui on classe une affaire, au bout de combien d'années ?
Alors ça, c'est très très difficile de répondre à cette question.
Il n'y a pas une règle.
Non, il n'y a pas de règle.
Si au bout de 20 ans, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je mets le dossier sur une étagère et c'est terminé.
Le juge, à la limite, peut laisser une affaire ouverte tant qu'il le veut.
Mais il ne le fait pas.
Il ne le fait pas.
Si je peux me permettre, ça c'est plutôt moi qui vais répondre
Richard.
Là-dessus.
Alors,
oui, bon. parce qu'on est au stade judiciaire, on n'est plus au stade d'enquête. Malheureusement, les policiers, ils ne peuvent pas grand-chose. Les policiers, on leur donne des commissions rogatoires. Le CRVP fait un travail remarquable, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même la mentalité dans les juridictions, des chefs de juridiction qui disent aux juges d'instruction, il faut que les affaires, elles avancent. Donc, dans un dossier, lorsqu'on estime qu'on a fermé toutes les portes, on doit rendre une ordonnance de non-lieu. La mentalité aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse pas un dossier traîner dans un cabinet d'instruction et c'est qu'on rend une ordonnance de non-lieu. Et ça, c'est important déjà de changer cette mentalité-là, soit dans ces cas-là, en envoyant pourquoi pas les dossiers à ces groupes spécialisés, soit en laissant les dossiers chez les juges d'instruction.
Parce qu'à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, c'est terminé.
Alors, à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, va commencer à courir le délai de prescription. Et ça, c'est pareil, il faudrait reparler du délai de prescription. La prescription en France, pour le coup, elle évolue, mais tout doucement. Et elle évolue beaucoup plus doucement que les mentalités et que les progrès de la science. Vous voyez, avant, on avait une durée de vie courte. Et puis, dans un dossier, pour le sortir, on avait des témoignages. Donc, c'est vrai qu'on se disait, au bout d'un moment, ça ne servait plus à grand-chose. On disait, y a une vertu de l'oubli dans ces cas-là. En réalité, aujourd'hui, on a plein de choses et on sait que tout évolue. Donc, déjà, il faut revoir cette prescription qui est vraiment une spécialité française.
Mais vous dites qu'il n'y a pas vraiment de délai. On ne dit pas 20 ans, 30 ans.
Alors, si, il y a des délais de prescription qui commencent à courir une fois que le dossier est fermé. Mais pour ouvrir un dossier.
Après le dernier acte d'instruction, voilà, en fait.
Après l'ordonnance de non-lieu. Ouais. Mais pour ouvrir un dossier, il faut beaucoup. Alors qu'un dossier qui est ouvert, s'il y a un peu, on peut au moins le vérifier sur un peu. Vous voyez, dans un dossier comme la disparition
de Cécile Valin. Il ne suffit pas de dire, tiens, j'ai un petit élément nouveau,
on a peut-être ouvert un tel endroit. Dans le dossier de disparition de Cécile Valin, qui avait 17 ans et qui a disparu à Saint-Jean-de-Maurienne en 1997, ça fait des années que je porte à bout de bras le dossier pour qu'on ne le clôture pas. Voilà. Parce qu'il faut systématiquement demander des actes pour éviter. On me dit, mais maître, il n'y a plus rien à faire maintenant. On va rendre une ordonnance de non-lieu. Non, on ne rend pas d'ordonnance de non-lieu.
Et ça, c'est quelque chose contre laquelle vous vous battez
beaucoup.
Hein, je sais, maître Cathy Richard. On a d'ailleurs l'un de vos clients en ligne. Hein. Je voudrais qu'on écoute ce témoignage.
C'est justement le papa de...
Voilà. Bonsoir, Jonathan Oliver.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes justement le père de Cécile Valin. Votre fille a disparu quand elle avait 17 ans, en juin 1997, après avoir quitté la maison familiale à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Elle a été aperçue pour la dernière fois le long d'une route départementale en direction de Chambéry. Depuis, plus rien, plus aucune nouvelle, aucune piste, malgré l'enquête, malgré les fouilles, malgré les appels à témoins, malgré les affiches placardées. Cécile, dites-vous, était une jeune femme épanouie, sans problème, heureuse, qui avait des projets. 23 ans plus tard, vous ne savez toujours pas ce qui lui est arrivé, mais vous ne voulez surtout, surtout pas qu'on referme son dossier. Or, il a failli l'être à plusieurs reprises. Hein.
Alors, ça, c'était le sujet d'une énorme angoisse, possibilité de fermeture du dossier faute de l'acceptation de pistes crédibles par les juges. Alors, je dois dire tout d'abord que Cathy Richard, c'est une avocate d'exception et c'est aussi une femme avec un très très grand cœur et c'est grâce à elle et aussi en partie le travail que j'ai fait avec une petite équipe aussi pour l'aider, mais c'est surtout grâce à Cathy Richard que le dossier est resté ouvert. Et c'est une angoisse épouvantable. Cécile était un enfant majeur, elle a disparu, elle n'a pas été l'auteur de sa propre disparition. Et l'idée même qu'on ferme ce dossier, c'est pas de la justice, c'est de l'injustice.
Parce que vous vous dites que quelque part, forcément, il y a quelqu'un aujourd'hui qui sait ce qui s'est passé. Hein.
Ah oui, alors forcément.
Alors finalement, grâce à votre avocate, dont vous dites beaucoup de bien, c'est l'OCRVP que dirigeait justement Philippe Guichard qui a repris ce dossier, qui est spécialisé dans les cold cases. Qu'est-ce que vous attendez des autorités aujourd'hui?
Alors déjà, simplement le fait qu'il y a eu cette OCRVP qui travaille. Ils étaient toute cette semaine à Saint-Jean-de-Maurienne, là où Cécile avait disparu. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'ont pas mis une échéance sur le travail sur le dossier de Cécile. Donc,
c'est-à-dire voilà, que l'enquête va pouvoir reprendre.
Continuer.
Oui, mais alors, on est sur une toute autre... On n'est pas sur le défensif, ne pas fermer le dossier. Au contraire, bravo, on va chercher encore plus, on va revoir toutes les pistes avec une équipe très compétente, avec des moyens, avec des techniques, de revoir le dossier de fond en comble. C'est une... remarquable.
On imagine effectivement votre soulagement. Donc, Philippe Guichard, ça veut bien dire qu'il y a quand même aujourd'hui des choses qui fonctionnent, hein, puisque ce monsieur va pouvoir voir l'enquête sur la disparition de sa fille se poursuivre.
Bien sûr. Et surtout que j'allais dire qu'on peut toujours élargir le champ des investigations. Moi aussi, ça me dérange franchement qu'un dossier soit clôturé, parce que c'est un enjeu de société, en quelque sorte. Est-ce que la société française accepte l'idée qu'un meurtrier soit toujours en liberté et que plus personne ne fasse rien pour essayer de le retrouver? Ça m'ennuie, ça m'empêche de dormir, et donc je ne supporte pas ça. J'estime qu'un dossier criminel doit être travaillé jusqu'au bout du bout, et même au-delà. Et je suis persuadé qu'un dossier comme celui de Cécile Valin peut sortir un jour ou l'autre. Il faut simplement qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Voilà. C'est la vraie solution. Si un dossier tombe dans l'oubli, c'est le meilleur moyen pour qu'il s'enlise. Si on a un avocat ou la presse qui s'en empare, on peut toujours trouver un élément clé, même très longtemps après les faits.
Oui, c'est important ça. Jacques Dallest, procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, vous dites que les médias aussi ont un rôle à jouer en faisant en sorte que ces histoires ne tombent pas dans l'oubli, ces affaires de disparition notamment.
Bien sûr, il faut utiliser tous les supports modernes, les réseaux sociaux, les médias. On sait que maintenant, nos concitoyens regardent beaucoup de vidéos et ça permet de faire tourner des choses, des images. Petit retour en arrière sur la prescription. J'indique à Maître Richard que dans notre préconisation, on souhaiterait que la prescription pour les crimes de sang passe de 20 à 30 ans.
Maître Richard, applaudit.
C'est normal. Ouais, qu'on laisse un temps, qu'on accroisse le temps permettant à la justice de travailler, même si le dossier a été provisoirement clôturé, qu'on puisse des années plus tard, avec le progrès scientifique, éventuellement réouvrir un dossier. À une époque, c'était 10 ans la prescription. Oui, on est passé à 20, je pense qu'il faut aller encore au-delà.
Et vous, alors, espérez être entendu là-dessus? Vous espérez être entendu?
Bah écoutez, ce sera au législateur. Nous, c'est une de nos recommandations. Ce sera au législateur de le dire. Je crois qu'il faut maintenant qu'on considère que la science nous permet d'avancer assez rapidement. Et on peut penser que dans 20, 30 ans, on élucidera des dossiers qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui. Oui. Et on a besoin de tous les intervenants, les médias, les avocats qui sont évidemment déterminants. Et comme ça a été dit, il faut que les magistrats soient au contact des familles. On ne peut pas clôturer un dossier, ou si on doit le clôturer, qu'on l'explique, qu'on recueille les explications de la famille, qu'on soit allé jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'on doit évidemment aux proches.
Et vous avez besoin... fait plaisir d'entendre ça.
Oui, je vois ça.
Ah oui, Maître Richard. Parce que vraiment, un degré d'humanité aussi avec les parties civiles, c'est tellement important.
Parce que pour vous, ça doit être, j'imagine, très difficile, hein, Maître Richard, d'expliquer aux familles pourquoi leur affaire n'avance pas ou est classée sans suite.
Hein. Bah, C'est-à-dire qu'effectivement, au moment où on lutte, et puis il y a une ordonnance de non-lieu qui nous est rendue, et puis on dit non, il restera des choses à faire, bah, on demande des actes, on nous dit oh bah oui, mais c'est pas possible, on va devant la chambre de l'instruction, on redemande des actes, on nous dit mais là pour l'instant, bah, maître, on a fermé toutes les portes, alors là on n'a plus rien à faire. Mais peut-être demain il y aura quelque chose à faire, et vous aurez rendu une ordonnance de non-lieu. Et effectivement, on entend aussi des juges d'instruction qui disent bah, « Moi, je n'ai pas forcément besoin de recevoir les parties civiles parce qu'ils m'aident en rien dans la manifestation de la vérité. Bah, » Ce n'est pas seulement, pour le coup, la manifestation de la vérité, là. C'est aussi une petite dose d'humanité.
Alors, quand la situation est bloquée, néanmoins, et que les voies officielles ne fonctionnent pas, la solution, c'est de faire appel à un enquêteur privé, comme vous, par exemple, Roger-Marc Moreau. On fait souvent appel à vous quand vraiment on est arrivé au bout du bout de ce que la justice pouvait nous apporter.
Oui, on essaye de ne pas laisser mourir un dossier, justement, de le médiatiser, d'apporter des éléments nouveaux, d'intéresser. Et les magistrats nous suivent parfois. Moi, je m'étais intéressé, par exemple, à une affaire qui est l'affaire de l'homme au visage grêlé, que tout le monde connaît ici. Le premier crime a été commis en 1984. Il n'a toujours pas fait l'objet d'un non-lieu. Il est toujours instruit parce que le nombre de victimes et la gravité des actes commis ne peut permet pas au juge d'instruction, un jour je déjeunais avec le juge d'instruction, il m'a dit je ne peux pas rendre un non-lieu parce que les familles ne pourraient pas l'accepter.
Ouais. Et vous êtes occupé aussi de d'autres affaires très médiatiques comme l'affaire Seznec, l'affaire Omar Haddad, notamment Roger-Marc Moreau. Hein.
Oui, et puis l'affaire Azimani El-Jabri. Alors dans l'affaire Azimani El-Jabri, on a obtenu une double révision. C'était quelque chose de formidable. Mais on l'a obtenu pourquoi ? Comment ? Grâce à l'ADN. Car on avait découvert sur la scène de crime de l'ADN. Et cet ADN n'avait pas été comparé. Il a fallu donc qu'on trouve des éléments nouveaux, par ailleurs des témoignages, qu'on dépose une requête en révision, et c'est la commission de révision qui va rouvrir une information qui va nous permettre de faire des demandes d'actes, notamment d'une nouvelle, l'inscription de l'ADN découvert à l'époque sur la scène de crime au FNAIG. Et c'est ça qui va permettre de résoudre cette affaire et d'innocenter deux hommes qui ont quand même fait en tout 24 ans de prison pour rien. Hein, donc l'ADN, c'est extrêmement important dans ces cas-là.
On va revenir sur l'ADN. Je voulais, parce qu'on a parlé du délai de prescription, on n'a pas encore parlé des scellés criminels. Combien de temps sont-elles conservées dans ces affaires non élucidées, Maître Cathy Richard ?
La problématique des scellés, les scellés, c'est un roman en soi. Ce n'est pas seulement que combien de temps ils sont conservés, c'est déjà la problématique de ne pas les perdre. Comme l'avait dit Monsieur le procureur général tout à l'heure, il ne faut déjà pas les perdre. Et si vous saviez le nombre de dossiers, mais bien sûr, où on nous dit « Ah, au moment de rechercher un scellé, on l'a perdu. »
Ça arrive très couramment.
Mais bien sûr, beaucoup plus couramment. Parce que, à la décharge de la justice, la gestion des scellés, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Ça demande d'abord beaucoup de place. Il faut que ce soit dans des endroits sécurisés, parce qu'aux endroits où il y a les scellés, il y a aussi... Il y a de l'argent qui a été placé sous scellé, il y a des drogues placées sous scellé, il y a des armes placées sous scellé. Donc c'est vrai que la gestion des scellés, c'est quelque chose d'énorme. Et puis malheureusement, parfois, on a des scellés disparus. Et puis aussi parfois, on a des scellés détruits aussi, parce qu'on va dire, donc on détruit les scellés, soit parce que à la suite d'une décision judiciaire, on va détruire... ordonnant la destruction des scellés. Alors, ça peut se comprendre dans beaucoup de dossiers, mais parfois, quand après, on sait qu'on peut sortir quelque chose et qu'on entend dire que les scellés sont détruits ou ont été mal conservés aussi. On a
mal
ça.
Rangé,
on a des endroits où on a perdu des scellés parce qu'il y a eu une inondation ou parce qu'il y a eu le feu à local des scellés. Enfin bon, voilà. Bon, ça, ce sont
d'autant
des
que ces scellés,
ils sont,
je crois que c'est masculin, très très importants puisque ils permettent effectivement aujourd'hui, des années plus tard, de résoudre certains cold cases grâce à l'ADN, hein, Philippe Guichard.
Absolument. D'ailleurs, quand on reprend un dossier ancien, quand on le relit, la première des choses qu'on regarde, c'est où sont les scellés, qu'est-ce qui a été fait sur ces scellés. À chaque fois, ou pratiquement. Il y a moyen de les réanalyser, les retraiter. Parfois, ils n'ont pas du tout été traités, d'ailleurs. Ça peut arriver sur des dossiers vraiment anciens.
Quand vous dites qu'ils n'ont pas été traités,
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été envoyés à un laboratoire aux fins de rechercher de l'ADN. Ce qui est évidemment très dommage. Un magistrat décide de prioriser les envois, ce qui est compréhensible, parce que ça coûte quand même cher, une exploitation de scellés, c'est clair. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir, sur un scellé qui n'a pas été exploité au moment des faits ou peu après les faits, finalement, un ADN clé. C'est possible.
C'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, la science progresse et qu'on sait qu'il y a peut-être d'autres techniques qui vont permettre encore d'améliorer tout ça.
Effectivement, les progrès de la science sont indéniables en matière de recherche de traces ADN. D'abord, on retrouve de l'ADN avec un prélèvement beaucoup plus limité, beaucoup plus fin.
Oui.
Et puis, on peut travailler l'ADN pour rechercher...
Maintenant, il y a l'ADN de parentèle aussi.
Voilà, on peut faire le portrait robot génétique d'un individu. On peut faire avancer le dossier grâce à l'ADN avec... efficacité, c'est certain.
On peut déterminer la couleur des yeux, éventuellement les cheveux d'une personne. C'est passionnant, je vous garderai bien encore une heure avec moi, malheureusement on va devoir conclure. Vous disiez tout à l'heure quelque chose qui m'a touchée, Philippe Guichard, vous disiez que finalement vous y pensiez tout le temps, que ça hantait un peu vos nuits, toutes ces affaires. Vous avez quitté l'Office central l'an dernier, vous avez laissé donc derrière vous un certain nombre d'affaires non élucidées. Il y en a une en particulier qui...
Écoutez, il y en
qui
a
vous
plein,
la nuit.
Pour vous donner un exemple, j'ai travaillé par exemple sur la disparition d'un jeune garçon dans le sud de la France, du côté de Nîmes, Lucas Tronche. Sa mère m'a dit un jour, monsieur le commissaire, vous êtes mon seul espoir. Comment voulez-vous que ça ne vous touche pas ?
Bien sûr. Merci à vous, merci infiniment de m'avoir accompagné dans ce débat passionnant, trop court bien sûr. Si les affaires criminelles vous intéressent, je ne saurais trop par ailleurs vous conseiller d'écouter en direct tous les jours Christophe Ondelat ou en podcast évidemment. Lui, il préfère les histoires qui ont une fin, mais c'est quand même très intéressant. On espère que grâce à vous, messieurs, dames, et grâce au progrès de la science, toutes ces histoires aujourd'hui non élucidées auront effectivement une fin très bientôt. Je voudrais qu'on remercie beaucoup Jonathan Oliver qui était en ligne avec nous, le papa de Cécile Valin. Merci beaucoup.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va vous raconter la stupéfaction des Français le jour de la mort de Pompidou. C'était en 1974. À tout de suite. Dans le club des idées d'Europe 1, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle le jour où.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Isabelle.
Alors avec vous, on va revenir sur ce 2 avril 1974, la mort du seul président de la Ve République en exercice, Georges Pompidou, un événement inattendu pour une majorité de Français et qui les a laissés abasourdis.
Oui, ce soir-là, il est 22h15 quand les Français, devant leur poste de télévision, voient les programmes s'interrompre. Sur la deuxième chaîne de l'ORTF, un flash de 40 secondes, laconique, annonce la mort du président de la République, Georges Pompidou. Pour Europe numéro 1, Jean-Claude Dacier prend l'antenne.
Le président Pompidou, président de la République française, est mort ce soir. Le secrétariat général de la présidence de la République a en effet annoncé tout à l'heure la mort du président Georges Pompidou. Le communiqué est très simple, il tient en quelques mots. Le président de la République est décédé le 2 avril 1974 à 21h et c'est signé du professeur Vignelou.
Il y avait bien des rumeurs sur la santé de Georges Pompidou. On voyait le visage du président bouffi sous l'effet d'un traitement à la cortisone. Les rares fois où il se déplaçait, c'était avec difficulté. Mais les médecins avaient pour ordre de minimiser. Ils communiquaient sur des crises hémorroïdales, des coups de froid, des crippes. En réalité, le président était atteint de la maladie de Waldenström, une maladie du sang qui gagnait du terrain. Les derniers mois, il annulait voyages et dîners officiels. Quand l'annonce de son décès tombe, les Français sont sous le choc. Au micro d'Europe numéro 1, il se montre stupéfait.
J'estime que c'était un grand homme et puis on avait notre liberté qu'on n'aura peut-être pas tous les jours. On n'en aura peut-être pas un autre pareil.
Le président Pompidou était un homme vraiment remarquable. Et puis j'ai peur pour la France maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous rendez compte ?
Et la presse, Victor, va même s'interroger sur les derniers jours de Georges Pompidou et sur sa lucidité pour gouverner.
Oui, le 7 avril, François Mauriac, journaliste de l'agence France Presse, décrit dans un article un président terriblement affaibli lors de son dernier conseil des ministres. Jacques Chirac, alors ministre de l'Intérieur, demande à intervenir sur Europe numéro 1 en direct pour démentir.
J'ai été choqué et peiné. L'impression qui se dégageait de ce récit était que la France avait été gouvernée par un homme qui n'aurait pas eu toutes ses facultés intellectuelles intactes.
Lorsqu'il dit « Monsieur Pompidou apparu comme tassé dans un coin, dans son fauteuil, en proie à la douleur, etc. », il dit également des choses qui sont totalement fausses.
En réalité, lors de ce conseil, le président Pompidou a expliqué à son gouvernement qu'il souffrait, selon ses mots, comme un damné 24 heures sur 24. Jacques Chirac finira par avouer dans ses mémoires que ce jour-là, l'émotion a pris le dessus sur la raison.
Alors Alain Poher, président du Sénat, assure la transition, mais vient bien sûr la question de sa succession.
Prise de court face à un François Mitterrand déjà en campagne et candidat unique de la gauche, la majorité va se diviser. Le premier à partir, c'est l'ancien Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, le jour même de l'éloge funèbre à l'Assemblée nationale.
Je viens de dire à mes amis de l'UDR que je compte sur leur appui dans la campagne électorale qui s'ouvre. Je viens également de prendre congé d'eux, car il ne s'agit pas d'investiture. C'est le peuple tout entier qui tranche, comme le veulent justement les institutions de la Ve République.
Le ministre de l'économie, Valéry Giscard d'Estaing, de sa terre de Chamalières, se lance dans la campagne quelques jours plus tard, soulignant l'importance du temps de deuil nécessaire. Une pique pour Chaban dont l'annonce a choqué. François Ponchelet, journaliste d'Europe numéro 1, est sur place.
Il y a moins d'une semaine, disparaissait le président Georges Pompidou. J'ai pensé que ceux qui s'inspirent de sa mémoire devait s'associer au deuil du peuple français avant de se préoccuper de sa succession. Aujourd'hui, je suis candidat à la présidence de la République française.
Valéry Giscard d'Estaing remporte d'une courte majorité cette élection présidentielle de 1974 face à François Mitterrand. 425 000 voix seulement les séparent. Pour l'opinion, près de 50 ans plus tard, Georges Pompidou est toujours symbole de modernité. Il est enterré à Orvilliers, un petit village de l'Oise.
Eh bien, merci beaucoup Victor Chabert de nous avoir replongé dans cet épisode de l'Histoire de France. Dans un instant, ce sera le rappel de l'actu avec Julien Pierce. Et puis, musique avec vous Émilie Mazoyer. Bonsoir Émilie. Émilie. Ah, Émilie n'a pas branché son casque ou son micro.
Oui,
elle est
là,
chouette.
Pardon, Isabelle Millet.
Alors, il y a quoi au programme ce soir, Émilie ?
Il y a un super groupe français qui s'appelle La Femme et qui sort aujourd'hui un nouvel album avec, écoutez bien, des paroles de chansons qui nous parlent à tous, je crois. C'est le retour. Le bordel.
Ouais.
On a un petit peu envie de se défouler et La Femme, c'est idéal pour ça. L'album Paradigme, donc, qui sort aujourd'hui.
Victor va découvrir ça avec vous. Merci beaucoup, Émilie.
Merci, Isabelle.
Très belle soirée à vous. Bon week-end à tous. Un grand merci à toute l'équipe d'Europe Soir, sans qui rien ne serait possible, bien sûr. Marie-Baptiste Duhart, Anne-Claire Bazin, Christophe Carré, Vincent Thévenet et Victor Chabert. Lundi à 18h, vous retrouverez, bien sûr, Julien Pugier. D'ici là, on écoute Le Monde Changer.